Bonjour, c'est Nadia sur Neptune FM et je vais vous présenter une nouvelle chronique littéraire à deux voix. Chaque semaine, je vais accueillir deux ou trois enfants pour partager un temps de lecture et les coups de cœur littéraires de chacun, et ainsi permettre à toutes les oreilles qui nous écoutent d'enrichir leur imaginaire. Pour essayer de vous transmettre le goût de la lecture, aujourd'hui, je suis avec Naïs.
Bonjour
Naïs.
Bonjour.
Avec Elsa.
Bonjour.
Bonjour Elsa. Et avec Irène.
Bonjour.
Bonjour Irène. Alors aujourd'hui, on a choisi un livre qui s'appelle Alma, le vent se lève, écrit par Timothée de Fombelle, aux éditions Gallimard Jeunesse. Alma, c'est le premier volet d'une trilogie qui parle de l'esclavage, entre autres, et d'un petit frère et de sa sœur qui vont essayer de partir à la conquête du monde. Voilà, je vais laisser tout de suite les filles commencer la lecture de cette histoire.
Et certes, un lion son roi. C'est un zèbre, sans rayures, debout dans les herbes jaunes, avec deux enfants couchés dans son ombre.
Regarde comme il est grand.
Elle s'appelle Alma. Elle parle à son petit frère allongé près d'elle.
Regarde.
Ils sont sur le dos, serrés, l'un contre l'autre, dans cette prairie sans fin. Et quand le soleil bouge un peu, l'animal fait un pas pour que les enfants restent à l'ombre. Ils rient ensemble, en le contemplant. Si Alma savait comme elle repensera plus tard à cette fraîcheur de son petit frère sur son côté, au clapotis de son rire.
Tu vois, je te l'avais dit, tu ne me croyais pas,
dit Alma. Le garçon ne répond pas. Tous les zèbres de la vallée sont petits, rayés, peureux. Celui-ci est très grand, plus haut qu'une main qu'on lève au-dessus de la tête quand on est debout sur la pointe des pieds. Il a un collier de cuir attaché autour du cou. Il n'a pas de rayures et il reste là, doucement, à veiller sur eux. Il n'a peur de rien.
Où tu l'as trouvé ?
Demande l'âme.
Je ne l'ai pas trouvé, c'est lui qui nous a trouvés.
Son frère se tait, les yeux brillants.
À quoi tu penses ?
Demande Alma. Silence. Il réfléchit.
Je réfléchis, je me souviens d'un jour plus beau,
dit l'âme. Alma sourit. Quelques instants plus tôt, elle lui a montré comment grimper sur le dos de l'animal. Elle se tenait au collier de cuir. Son frère est même monté derrière elle avec son bonnet bleu qu'il ne quitte jamais. Au grand galop vers les arbres, ils ont fait s'envoler les gazelles comme des papillons. Puis ils se sont laissés glisser dans l'herbe, assommés de bonheur.
Il s'appelle Brouillard,
souffle Alma.
Comment tu sais ?
Parce qu'il est tout blanc.
On peut choisir le nom des choses nouvelles ?
Elle répond fièrement.
Oui, on fait ce qu'on veut.
Mais Alma sait qu'avant Brouillard et sa blancheur, son petit frère était la dernière chose nouvelle apparue dans leur vallée. Rien d'autre à l'horizon depuis la naissance de l'âme, quand elle avait 3 ans. La vallée est entièrement fermée par des falaises. Elle est belle et chaude comme un paradis. Elle ressemble à une main immense remplie de prairies, d'arbres et de baies sauvages. Une main ouverte qui donne tout ce qu'il faut pour vivre. La nourriture, les nuits étoilées, les petits singes dans la branche pour s'amuser. Elle donne les plus battantes dans lesquelles ils s'enfoncent tout nus en courant, les siestes entre leurs parents, les hautes herbes qui penchent quand passent les lions ou le vent. Mais rien n'existe pour eux en dehors de ce monde protégé et fermé. Une famille, seule, dans une vallée à perte de vue, il n'y a rien d'autre qui vienne de quelque part pour prendre un nom nouveau. Ou bien, il faudrait nommer chaque nuage qui passe. Et tout à coup, voilà Brouillard. Il est là, au-dessus d'eux, comme une apparition. Alma l'a vu arriver, 1 an plus tôt exactement. Des jours entiers, elle a parcouru la vallée toute seule avec son arc sur l'épaule pour le retrouver, pour être sûre qu'elle n'avait pas rêvé. Lentement, elle a appris à l'approcher et, pendant des mois, elle n'a rien dit à personne. Elle l'a gardé pour elle.
« Brouillard !»
appelle Alma. Brouillard baisse vers elle, son front et ses yeux doux.
« Il te répond ?»
demande l'âme. Ils sont toujours allongés. Alma roule sur le côté en souriant et fait s'élever de l'herbe des nuages d'oiseaux minuscules. Elle tourne le dos à son frère.
« D'où il vient ?»
demande l'âme.
« De là-bas ?»
Silence.
« Âme, dis-moi. »
Il appelle sa sœur Âme. Il dit Âme d'une voix qui traîne, comme quand on ferme les yeux pour manger ce qu'il y a de meilleur.
« Est-ce qu'il vient de là-bas ? Âme, dis-le-moi. »
Le petit garçon a roulé à son tour juste derrière elle. Il demande encore.
« Âme, d'où il vient ?»
Même au paradis, il faut bien raconter des histoires et inventer d'autres mondes aux enfants. Alors, Alma a inventé ce pays de là-bas pour son frère. Elle lui en parle toutes les nuits.
Et elle y a mis des fleurs noires, des petites filles qui sentent le sucre grillé, des prairies qui font des étincelles dans l'obscurité, des maçons avec des ailes hautes comme les falaises. Elle dit là-bas, dans la langue de leur mère, la langue des histoires et des chansons. Mais il s'est passé quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, et qui lui a fait un peu peur. Son frère a construit sa cabane dans ce monde qu'elle lui invente. Petit à petit, l'âme s'est installée là-bas, dans ce paysage imaginaire. Depuis des mois, il ne pense qu'à cela, le jour et la nuit. Il ne veut plus en revenir. L'âme entend sa sœur qui murmure. On devine qu'elle sourit en chantonnant. Elle aime être la reine de ce pays qu'elle crée pour lui. Elle aime raconter ses histoires belles et dangereuses qui lui viennent aux lèvres sans qu'elle sache comment. Le temps passe, le ciel descend, s'assombrit. Au-dessus d'eux, Brouillard ne bouge pas. Il a un petit oiseau au bec d'argent posé près de son œil et ne veut pas le déranger. Il ne lève même pas un cil. Alma chantonne toujours, bouche bée, en gardant pour elle ses mystères.
« Arrête !»
supplie l'âme.
« Arrête, s'il te plaît !»
Alma se tait soudain. Quelque chose grelotte derrière elle. Ça fait le bruit des arbres qui s'égouttent après la pluie. C'est son frère qui pleure.
« L'âme !»
Elle se retourne et pose son front contre celui de l'âme. Leurs nez s'assemblent l'un au-dessus de l'autre. Leurs deux visages vont exactement ensemble. On ne sait plus à qui sont les larmes. C'est pour cela qu'Alma pense qu'ils ne se quitteront jamais. Elle a un autre frère, plus grand, Soum, qu'elle aime tendrement. D'ailleurs, elle s'est arrêtée de pleurer dès que leurs peaux se sont touchées.
Il vient de là-bas ?
Demande encore l'âme. Et il ajoute.
Tu m'emmèneras un jour,
âme ? Il laisse passer un long silence.
Et nous ? D'où on vient ?
Alma ne répond pas. Elle sait juste qu'elle est née ici, il y a 13 ans. Elle a grandi en liberté avec ses parents et Soum, dans ce territoire immense, où l'âme est apparue à son tour. La seule limite à leur liberté, c'est la loi que répète son père, en enfonçant ses yeux dans les leurs. Rien ni personne ne doit entrer dans la vallée, et rien ne doit en sortir. Quand il dit cela, son regard est une flèche noire qu'elle ne reconnaît pas. Il fait peur. C'est pour cela qu'elle n'a pas parlé de brouillard avant ce jour. Parce qu'elle l'a vu arriver un matin de grande pluie et qu'il venait sûrement d'ailleurs avec ses lunes de fer sous les pieds et son collier de cuir. Alma et l'âme restent immobiles tous les deux, à écouter le bourdonnement des guêpes fouettées par la queue de brouillard. Puis, le garçon se détache de sa sœur. Il glisse sur le côté.
« Ça va ?»
demande Alma. Mais l'âme n'est plus vraiment là. Il serre dans sa main son bonnet bleu, couché sur le dos. Il observe attentivement le zèbre sans rayures, blanc comme la brume du matin. Non. Ce n'est pas un zèbre. Il est plus fin, plus grand, avec une crinière très longue. Hier, il était peut-être encore là-bas. Il jouait dans l'herbe qui fait des étincelles. L'âme regarde l'œil humide de brouillard. Il voudrait y plonger pour passer de l'autre côté, sortir de la vallée et voir enfin ce qu'il y a. Alors, la pluie commence à tomber, les gouttes grésillent en touchant les herbes sur la terre chaude. On dirait qu'elles tombent sur la braise. Ce sont les premières de la saison des pluies. Et dans une ou deux lunes, il va pleuvoir presque toute l'eau de l'année. Allongés sur le dos, Alma et l'âme ouvrent la bouche pour tenter de sentir en premier sur leur langue cette pluie qui porte bonheur. Mais très vite, ils se lèvent parce que l'averse grossit. Ils ramassent leurs grands arcs posés dans l'herbe. Un fourreau pour les flèches est attaché au bois courbé. Au loin, des antilopes courent vers la ligne des arbres. Brouillard frissonne.
« Tu restes ici, Brouillard. Tu nous attends jusqu'à demain. »
Il pose chacun la joue sur son cou pour lui dire au revoir. L'animal tremble encore de plaisir ou de froid. Des mois plus tôt, un autre jour de pluie, Brouillard s'est échappé d'un monde où ses moments n'existaient pas, où la liberté n'était même plus un souvenir, où on plantait les talons dans ses flancs pour le faire galoper derrière les fugitifs, qui avaient l'odeur de la peur. Ici, il découvre l'odeur de la terre, la paix et les cris de joie des deux enfants qui s'éloignent sous la verre. Mais au fond de lui, l'animal sait qu'il faudra bientôt repartir.
« Tu ne parles pas de brouillard, d'accord, l'âme ? À personne !»
L'âme court à côté d'Alma, aveuglée par les gouttes d'eau. La corde des arcs bat leur dos.
« Promis ?»
Il ne répond pas. Il sourit. Il sait ce qu'il doit faire. Il a un plan. D'ailleurs, il a 10 ans. 10 grandes pluies exactement. À cet âge, les bêtes chassent seules depuis longtemps et certains lions sont déjà rois.
Merci beaucoup les filles, merci pour votre lecture. Alors, je vais commencer par vous demander ce que vous avez pensé de ce récit. Toi Anaïs qui a beaucoup lu, peut-être que je te questionne après. Donc d'abord Irène, toi qu'est-ce que tu as
Au début, je pensais que c'était des lions. Enfin, ouais. On parlait d'un lion, mais après j'ai compris qu'on parlait d'un cheval. Mm-hmm. D'un zèbre sans rayures.
Ouais, très. Moi aussi au début je pensais qu'on parlait d'un lion. C'est trompeur.
Oui.
Est-ce que tu as trouvé l'écriture poétique ? Est-ce que...
Bah ouais, c'est relaxant à lire un petit peu. Mm-hmm. Même, je pense, à écouter.
Ouais, tout à fait.
Parce que c'est écrit joliment.
Ouais. Et après, toi, Naïs, est-ce que tu t'es donc imaginé la scène, etc. Tu as tout de suite compris que c'était un cheval ou...
Dès le début, je me suis dit que c'était un zèbre sans rayures. Ça devait sûrement être un cheval, mais j'ai eu quand même des hésitations. Je me suis dit que peut-être c'était autre chose, mais qu'il y avait plus de possibilités que ce soit un cheval.
D'accord, oui. Ok. Elsa, qu'est-ce que tu as ressenti, toi, à la lecture de...
Moi, j'ai trouvé que ce livre, il était très beau à lire et à entendre.
Alors, c'est un extrait, hein, c'est le début de l'histoire. Alors, justement, c'est un premier extrait. D'après vous, quel âge a la jeune fille, la grande sœur?
On l'a vu.
Il a 10 ans.
Alors ouais.
Elle a 13 ans.
Elle a 13 ans, bien, c'est pour voir si vous suivez.
Et son frère, il a 10 ans.
Ouais. Il va se passer quelque chose, un drame. En fait, la grande sœur va chercher son frère et ne va plus le trouver. En fait, ça va être la suite de l'histoire. Et d'après vous, comment ça peut évoluer? Vers où le petit frère a pu aller
Il a dû essayer de sortir de la vallée, de trouver quelque chose qui ressemble au monde qu'elle s'est créé et de laquelle lui raconte des histoires.
Ouais, tout à fait.
Là-bas.
Et est-ce que le cheval, à votre avis, a joué un rôle
Le cheval, il appartenait aux gens et qu'il est parti parce qu'ils disent qu'il lui donne des coups d'éperon, tout ça. Je pense pas qu'il va y retourner.
Ouais.
Donc, je sais pas.
Mais il a pu peut-être partir vers d'autres horizons.
Peut-être qu'il est parti avec le cheval et qu'il a voulu savoir d'où il venait.
Bah oui. Donc, pour savoir la suite de l'histoire, évidemment, il faut lire la suite du livre.
Ouais.
Normal. Bon, on va se détacher un tout petit peu du livre pour vous demander, à vous personnellement, ce qui vous a donné, en fait, le déclic de la lecture. Je me tourne vers toi, Naïs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a donné envie de lire?
Depuis que je suis toute petite, je lis. Mes parents, quand j'étais petite, me lisaient des histoires. J'ai toujours aimé le livre. Donc, il n'y a pas un livre en particulier qui m'a donné envie de lire, mais beaucoup de livres, pratiquement tous ceux que j'ai lus, à part ceux qu'on a lus en cours, tous donnent envie de lire.
C'est la transmission de tes parents. Alors, c'est le fait d'entendre tes parents te lire des histoires.
Et surtout aussi ma grande sœur qui a toujours beaucoup lu, aimé écrire des histoires et même dessiner. Du coup, quand j'étais petite, j'essayais toujours de lire les livres qu'elle lisait.
Super, ouais.
Même si toujours, c'était pas toujours possible, puisque des fois c'était un peu trop compliqué.
À comprendre, ouais. Ok, merci. Irène, toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a...
Pareil, moi j'ai toujours aimé lire, j'adore lire. Mmh. Quand je lis dans ma tête, je lis assez vite. Du coup, je dévore tous les livres qu'on m'offre et puis...
Oh.
Moi j'aime bien lire.
Alors c'est quoi ta moyenne de, de livres?
Mais je lis vite, je pense, parce que...
Ouais. Donc, par exemple, tu peux lire, si j'essaie d'imaginer, un livre par semaine?
Non, quand même pas. Non. Je sais pas, peut-être un peu moins.
Ouais.
Quand je peux, je sais pas, tous les soirs, je lis un peu.
Ouais, t'as une...
Okay. Non, je sais pas, j'ai toujours un peu aimé lire.
Ok. Ça te permet de t'évader? Qu'est-ce que ça te procure, la lecture?
Déjà, ça m'aide à m'endormir. Parce que, je sais pas, c'est apaisant, c'est mieux que les écrans, je pense.
Mmh.
Ouais, ça me permet un peu, si c'est passé des trucs mauvais dans ma journée, j'oublie parce que je me mets dans la peau du personnage dans lequel tu es dans le livre.
D'accord. Ok.
Voilà.
Merci. Et Elsa?
Moi, c'est le livre Les Vermeils. Parce que j'aime beaucoup les livres où il y a des images, de la couleur. Et dans Les Vermeils, c'est un livre où il y a beaucoup, beaucoup de couleurs.
Toi, tu t'évades avec l'illustration, plutôt. Ouais.
Ouais.
Ok.
Et puis.
Ok, très bien. Alors, est-ce qu'il y a un livre, un livre dont vous voudriez parler, qui vous a marqué, Naïs?
Moi, j'ai beaucoup aimé le livre L'Arabe du futur.
Ok.
J'ai trouvé très intéressant et je les ai tous lus d'une traite le plus vite que je pouvais, tellement ça m'intéressait et que j'avais envie de tout lire.
Mmh.
Bon, il a fallu attendre qu'ils arrivent petit à petit, qu'on les achète, mais... Sinon, je les aurais tous lus d'un coup. C'est très intéressant. L'histoire est très bien.
Alors, tu peux nous rappeler qui a écrit L'Arabe du futur?
C'est un livre de Riyad Satouf.
Oui.
Donc, c'est son histoire à lui.
Ok.
Qui a grandi... qui a grandi un peu difficilement. Il a voyagé beaucoup. Il a beaucoup changé d'endroit où il vivait. Il vivait un peu difficilement. Il était surtout pas toujours très bien traité par les gens.
Il explique en quoi c'est pas facile d'être d'une autre nationalité.
C'est ça. Puis il explique aussi ses études, son parcours. Parce que son père a quand même, quand ils étaient petits, son père a quand même enlevé son frère.
Ah oui?
Pour le ramener en Syrie.
Ok.
Alors qu'ils étaient en France.
Et toi, Irène, est-ce qu'il y a un livre en particulier qui t'a marqué, que t'aimes bien ou que tu relirais
En ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Inheritance Game.
Alors, raconte-nous.
En fait, c'est une fille qui est pas principalement riche. Genre, elle est assez normale. Elle
modeste,
est
pas, ouais.
Voilà, modeste. Mmh. Et en fait, d'un jour au lendemain, elle apprend qu'un milliardaire qu'elle connaît pas du tout lui a légué toute sa fortune.
Oh là.
Et du coup, après, il y a toute une enquête qui se mêle. Pourquoi est-ce qu'il lui a donné à elle? Est-ce qu'il l'a déjà rencontré? Machin truc. Et du coup, on commence à savoir pourquoi, comment. Et en fait, il y a plein d'enquêtes. Du coup, elle hérite de la maison. Elle rencontre la famille du mec qui est mort. Et...
Ce qui est drôle, c'est que c'est pas, l'intrigue, elle n'est pas autour de ce qu'elle va faire forcément de tout cet argent. Mais c'est de pourquoi. Il y a un mystère autour de pourquoi c'est elle qui hérite.
Ouais, surtout que le mec, elle l'a jamais connu.
C'est bizarre.
Ouais, du coup, c'est beaucoup de suspense et j'aime bien.
Ok, très bien.
C'est un très bon livre, hein. J'ai commencé à le lire, ça a l'air bien.
Elsa, toi, t'as une lecture
Moi, j'ai bien aimé Lottie Brook.
Ouais.
C'est l'histoire d'une fille qui va rentrer en sixième, mais sa meilleure amie, elle a déménagé en Australie. Et du coup, elle va devoir se débrouiller toute seule pour entrer en sixième. Et il se passe plein d'aventures et c'est rigolo.
Ok, super. Alors, dernière petite question pour clôturer. Comment vous choisissez vos lectures? Donc, il y a le CDI, ça j'ai compris, qui a l'air d'être très bien fourni au collège. Petite pub au passage. Mais comment est-ce que... Bon, il y a les grands frères, les grandes sœurs qui peuvent vous aiguiller, vous donner des livres. Sinon, comment vous les choisissez, Irène, toi?
Souvent, je regarde la couverture. Par exemple, si c'est une couverture toute noire juste avec le titre, ça va peut-être être moins...
Non, c'est attractif. Ça va...
ouais. Ouais, voilà. Et du coup, alors que si c'est une écriture avec des trucs qui brillent, des verrous, tout ça, et que tu tournes le dos, enfin, tu vas à la quatrième couverture, je crois.
Ouais, ouais, ouais.
Et que tu regardes le résumé, il faut que, je sais pas. Je pense que. Ou alors t'en trouves le livre, tu vois si comment c'est écrit, ça te plaît, les dialogues, tout ça.
Oui, tu commences quand même déjà à regarder un petit peu les premières pages pour voir si le style te plaît. Et tu pioches principalement au CDI ou après
Au CDI surtout. Ouais. En fait, je commence à lire les premiers tomes au CDI et si ça me plaît, j'achète les autres.
Ok.
Comme ça, j'ai.
D'accord. Ouais, merci, Irène. Et Naïs?
Ça dépend. Pour choisir les livres, comme Irène, forcément, il faut regarder la couverture.
Mm-hmm.
Mais sinon, pareil, je regarde déjà l'intérieur, comment c'est écrit, s'il y a des illustrations, si c'est pas écrit tout petit ou trop gros.
Est-ce que toi, ça te rebute quand c'est écrit trop petit ou...
Oui, quand c'est écrit beaucoup trop petit ou beaucoup trop gros, j'aime pas trop.
D'accord.
Et après, c'est vrai qu'il faut regarder, parce qu'il y a certains livres, déjà, il faut regarder l'auteur, si on le connaît ou pas, moi, c'est ce que je fais.
Ah ouais,
ouais. Et souvent, avant d'acheter un livre, je commence à lire les premières pages.
Bien, ok. Toi, Elsa?
Moi, je discute avec mes copines aussi pour savoir ce qu'elles lisent et ce qui pourrait me plaire. Au CDI aussi, pendant la récréation, on peut aller lire les livres. Et puis après, si ça nous plaît, oui, à la maison de la presse aussi, il y en a.
Eh ouais, très bien, ok. Alors, on va clôturer l'émission avec juste le mot qui, pour vous, définit la lecture. Ça peut être... si on vous dit lecture, qu'est-ce que ça représente dans votre tête? Donc je vous donne un exemple pour pas que ce soit un piège. Ça peut être évasion, rêve, qu'est-ce que pour vous représente la lecture? Allez Irène, à toi.
Moi je dirais apaisement, parce que vraiment quand je lis ça apaise beaucoup.
Ouais, ok, très bien. Naïs?
Je dirais voyage, c'est un voyage à moins cher et plus intéressant.
Eh ben oui. Bien vu. Elsa?
Je peux dire une phrase?
Allez, vas-y, oui.
Évasion dans un monde merveilleux.
Très bien, là on a plein de choses. Parfait. Et ben, je vous remercie beaucoup, les filles,
de rien, merci.
Pour votre lecture et tout ce que vous nous avez dit autour. Voilà, à très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
À bientôt.
Au revoir.